magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la mémoire. Notre cerveau stocke, oriente ou réactive les souvenirs. Mais d'ailleurs, parfois, notre mémoire nous joue des tours. On se plaint tous, un jour ou l'autre, d'avoir la mémoire qui flanche. On a le mot sur le bout de la langue, alors on s'inquiète. Dégénérescence du cerveau, maladie d'Alzheimer, vieillissement. Des scientifiques cherchent justement à mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau, car pour la médecine, l'enjeu est important. Les troubles de la mémoire concernent un nombre croissant de patients. Et de tout temps, on s'est intéressé à cette mémoire, à son fonctionnement. Différentes méthodes se sont développées pour mieux apprendre, mieux retenir. Alors, on entend souvent parler des procédés mnémotechniques, de l'auto-répétition. Alors, comment notre cerveau trie-t-il, stocke-t-il les informations qu'il reçoit en permanence? Peut-on améliorer sa mémoire? Comment l'entretenir? Quels sont aussi les liens, finalement, entre mémoire et sommeil, mémoire et alimentation, peut-être même mémoire et sport? C'est ce qu'on va voir avec mon invité aujourd'hui, Francis Eustache, neuropsychologue. Il est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, directeur de recherche à l'INSERM et président du conseil scientifique de l'Observatoire B2V des mémoires. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 deux fois. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Kamador Touré, qui est neurologue à la clinique neurologique de l'hôpital FAN de Dakar au Sénégal. Et on terminera en parlant des médicaments falsifiés. Francis Eustache, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Priorité Santé pour parler d'un sujet qui finalement préoccupe tout le monde, à tout âge, cette question de la mémoire. Ça nous préoccupe, je dirais, dès l'école. C'est quoi cet observatoire B2V des mémoires?
Alors, cet observatoire B2V des mémoires, je pense que c'est une belle idée, donc, d'un groupe de protection sociale qui s'appelle B2V, donc, qui est un ensemble de mutuelles, d'assurances. Mais c'est un groupe paritaire, c'est-à-dire qui réinvestit, en fait, ses bénéfices dans l'action sociale. Et une de ses actions, c'est d'avoir créé cet observatoire l'an dernier, au printemps dernier. Et cet observatoire, donc, qui réunit des scientifiques, un conseil scientifique, dont j'ai l'honneur d'être le président, conseil scientifique qui est pluridisciplinaire, qui va vraiment des sciences humaines à la neurobiologie. Bien, cet observatoire a différentes missions. D'abord, se tourner vers les jeunes chercheurs, encourager la recherche en mettant en place des allocations de recherche pour des doctorants, et puis différentes actions, des prix pour des associations qui travaillent dans le domaine de la mémoire transgénérationnelle, c'est-à-dire la transmission des savoirs, et puis d'autres actions comme cette année une semaine de la mémoire qui sera un événement médiatique national du 15 au 21 septembre, et qui aura lieu notamment en Basse-Normandie avec 45 événements, à la fois des congrès scientifiques, mais également beaucoup d'actions vers le grand public pour parler de la mémoire, faire comprendre la mémoire sous toutes ses formes, et faire comprendre également les troubles de mémoire, la diversité des troubles de mémoire et les problèmes qu'ils posent.
On reviendra sur toutes ces questions de recherche, parce qu'on cherche justement à mieux comprendre comment fonctionne notre mémoire. De façon très basique, elle fonctionne comment, justement? Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui?
Alors, on sait beaucoup de choses, puis il y a également encore des inconnus, fort heureusement. Donc, c'est la mémoire, on pourrait dire très simplement que c'est la fonction qui permet d'enregistrer, de conserver et de restituer des informations. Vous voyez, ça paraît très très simple.
Mais c'est compliqué.
En fait, c'est un peu plus compliqué parce que les situations sont très diverses. Les situations où on apprend sont très diverses. On peut apprendre avec un effort quand on est à l'école. On c'est plus ou moins difficile quand on apprend à conduire, des choses comme ça. Vous voyez, c'est plus ou moins difficile. Et puis, on peut conserver ces informations parfois quelques minutes. Et puis, si c'est une information qui n'a pas d'intérêt, cette information va disparaître. Et puis, on peut également récupérer les informations dans des situations très diverses. Quand je parlais de la conduite automobile, le fait de conduire, c'est récupérer des informations qui ont été en partie automatisées. Et puis, c'est aussi se souvenir. Donc, les souvenirs, on les place très haut dans la hiérarchie de la mémoire parce que c'est très important d'avoir des souvenirs. C'est important pour notre identité. C'est important pour les relations que l'on a avec les autres. Donc, effectivement, la mémoire, c'est un sujet qui, sur lequel on réfléchit. C'est un sujet qui nous préoccupe aussi quand on est en contact de petits problèmes de mémoire pour soi-même et pour les autres. Donc, c'est vrai que ça devient
c'est très plus vite qu'un une obsession.
Oui, une obsession. Puis c'est un problème presque de société parce que on est aujourd'hui tous confrontés à des personnes qui ont des troubles de mémoire, que ce soit quelqu'un qui a eu un traumatisme ou quelqu'un d'âgé qui développe une maladie dégénérative. Donc je pense que c'est important de comprendre et important de comment interagir avec ces personnes.
On est très inégaux face à la mémoire. Quelle est la part de l'inné et de l'acquis ? C'est-à-dire, il y a des gens, on sent bien, qui ont plus de mémoire que d'autres, mais il y a une partie qui se travaille aussi.
Oui, alors on est inégaux dans plein de domaines. Ça, je ne vais pas aller contre votre proposition. Et puis après, on est inégaux, mais on est surtout différents. Et on est différents et on a une responsabilité dans ces différences. C'est-à-dire que la mémoire, elle va se spécialiser. Dans certains cas, elle est hyper spécialisée. Il y a des personnes, il y a des experts dans certains domaines, des joueurs d'échecs, des spécialistes d'art qui vont être absolument incollables dans leur domaine. Donc c'est vrai que quand on parle avec eux, ils sont très impressionnants dans leur domaine. Et puis très souvent, eh bien, ces personnes dans d'autres domaines très différents, vont pas avoir une mémoire vraiment supérieure à tout un chacun.
Vous voulez dire donc, qu'ils vont oublier un nom comme nous, quoi ?
Oui, ils vont être capables d'avoir des petits bugs, des petits dysfonctionnements qui nous rassurent en quelque sorte. Et donc, je pense qu'il faut plutôt voir les choses comme ça. Mais certes, il y a des inégalités, mais il y a surtout des spécialisations en fonction des intérêts du sujet. Et ensuite, eh bien, on est plus ou moins responsable de cela, puisque la mémoire, en fait, c'est un témoin hein, de nos intérêts, de nos aspirations, de tout ce que l'on connaît. Et après, la mémoire, elle s'adapte en fait à notre volonté intime.
On a au téléphone Kessa qui nous appelle de Dakar au Sénégal. Kessa, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour.
En fait, moi mon problème est que j'apprends très vite. J'oublie très rapidement. Je ne sais pas si c'est un problème de trouble de la mémoire ou une amnésie. Comment faire pour stimuler sa mémoire?
Et juste, Kessa, vous avez quel âge et vous êtes, je crois, étudiante?
Oui, j'ai 28 ans.
Et vous êtes étudiante, infirmière, c'est ça?
Oui.
Et alors, vos problèmes de mémoire, c'est-à-dire que est-ce que vous vous rappelez suffisamment ce que vous avez appris pour le moment de l'examen?
Oui.
Mais plus après.
Je peux apprendre mes cours, trois cours dans une journée. Et au bout d'une semaine, j'oublie tout. Et si je voulais revenir sur le cours précédent, je ne me souviens plus du tout.
Francis Eustache, comment est-ce qu'on peut expliquer cette mémoire finalement rapide mais qui ne reste pas?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce que l'on vit, et y compris les cours que vous suivez, c'est destiné, si on ne fait rien de particulier, c'est destiné à disparaître. Le grand partenaire de la mémoire, ça va peut-être vous choquer, mais c'est l'oubli. Et fort heureusement, on oublie énormément de choses. Alors, ce qui est embêtant, c'est quand on oublie des choses que l'on voudrait conserver. Et c'est un petit peu votre situation. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fait d'encoder une information, par exemple, d'être en cours avec un professeur, eh bien, effectivement, le soir, quand on rentre à la maison, on se souvient du cours. Mais c'est normal que 3 jours après, on s'en souvienne pas, on s'en souvient beaucoup moins bien. Donc, et ça, c'est tout le travail que doit faire l'étudiant. Là, vous êtes étudiante en infirmière, et donc vous devez revoir vos cours, et surtout, vous devez les comprendre par rapport à d'autres cours que vous avez déjà eus sur des sujets voisins, et puis les mettre en relation avec ce que vous allez apprendre par la suite. C'est comme ça que vous allez construire une connaissance. Alors, la mémoire, elle n'est pas extérieure à vous. Hein. C'est pas un objet qui est extérieur à vous. La mémoire, c'est vous. Et donc, c'est à vous de mettre en place des stratégies pour acquérir toutes ces connaissances, donc dans le domaine de votre futur métier, mais également dans d'autres domaines. Donc c'est le travail qu'on appelle de consolidation de la mémoire. Donc pour cela, bon, il y a un certain nombre d'ingrédients.
C'est ça, concrètement, on fait comment ?
Ben, il y a un certain nombre d'ingrédients qui sont indispensables pour que la mémoire fonctionne bien. C'est une sorte d'hygiène de vie, bien sûr, il y a le sommeil qui est très important. Hein, si on a une mauvaise qualité de sommeil pour des raisons diverses, le travail de consolidation, il se fait beaucoup la nuit. Hein. Mais c'est pas magique, hein. C'est-à-dire que c'est pas en
l'histoire de relire ses cours avant de se coucher en se disant ça va s'imprégner la nuit, ça marche,
ça marche,
ça c'est une bonne
ça
idée.
Ça marche, c'est une bonne idée, c'est connu depuis très longtemps, mais ça suffit pas forcément de relire à toute vitesse. On sait que le travail de consolidation de la mémoire, il se fait beaucoup pendant le sommeil et dans des expériences de physiologie, si on prive les personnes de sommeil et si on leur demande de rappeler les informations quelques jours après, une fois qu'ils ont récupéré du fait d'avoir mal dormi, eh bien, ils ont de moins bonnes performances de mémoire. Donc ça, c'est un élément très important. Donc il y a ces aspects sommeil, mais il y a aussi la volonté, enfin, quand on a à prendre des cours, de faire un travail en profondeur sur ces cours. Parce que ce qui est bien encodé, ce qui est bien enregistré, c'est ce qui va être traité en profondeur, c'est-à-dire ce qui va être traité au niveau du sens. Et donc vos cours, il faut vraiment que vous les relisiez, que vous les compreniez et que vous les mettiez, enfin j'insiste vraiment là-dessus, que les différents cours que vous avez au cours d'une journée ou lors de journées successives, que ça reste pas des éléments disparates, mais que tout ça devienne une connaissance cohérente, hein, que vous soyez capable d'en faire une synthèse plus ou moins longue. Vous voyez, si je vous demande de faire la synthèse de votre cours en 3 phrases, en 10 phrases, en 20 phrases, vous devez être capable de faire tout ça. C'est-à-dire que vous avez parfaitement compris. Et si vous avez compris, vous allez retenir. Alors vous allez perdre, bien sûr, des éléments au fil du temps, mais vous allez garder la substance qui va vous être indispensable pour exercer votre métier.
Donc cette mémoire, elle est complètement liée à la compréhension.
Elle est liée à la compréhension, il y a ce qu'on comprend, vraiment en profondeur. Et puis ensuite, il faut... La mémoire, c'est une synthèse. La mémoire, c'est pas du tout conserver les informations verbatim. Ça, c'est fait pour les magnétophones. Mais c'est une synthèse. C'est-à-dire que si vous avez bien compris, vous êtes capable de synthétiser les choses. Et certes, vous allez perdre des éléments qui sont superflus, en quelque sorte, mais vous allez garder l'essence même de ce qui est important.
Et c'est ce qui vous servira après dans votre métier. Merci beaucoup, Kessa, et bon courage pour les examens. Donc.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons de la mémoire avec Francis Eustache, qui est neuropsychologue et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. On a Moussa qui nous appelle de Libreville au Gabon. Moussa, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, je vais expliquer, j'ai un trouble, je crois que c'est trouble de mémoire, je ne sais pas. Il y a un moment, j'avais des inflammations au niveau de la tête. Bon. Ça m'a troublé un peu. Bon, il y a des moments quand un client me donne de l'argent, quand je mets dans mon coffre, et aussitôt je ne sais pas ce qu'il me donne.
C'est ça, ce que je comprends, Moussa, juste pour qu'on précise bien, c'est que vous êtes gérant d'une boutique.
Oui.
Et c'est ça, en fait, quand un client vous donne de l'argent, vous ne vous rappelez plus combien il vous a donné, c'est ça?
Oui, tout de suite pour lui rendre la monnaie, c'est un peu difficile. Aussitôt j'oublie combien il m'a donné.
Et je crois que vous avez des problèmes d'insomnie, c'est ça?
Oui, j'ai des problèmes d'insomnie vraiment très fort. Hein. Je n'arrive pas à dormir vraiment bien. À l'époque, je souffre un peu de l'insomnie.
Une réaction par rapport à ça, Francis Eustache. Effectivement, on l'a évoqué tout à l'heure, les problèmes d'insomnie ont un impact sur la mémoire, même la mémoire de très courte durée.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un lien très étroit entre la mémoire et le sommeil. Et donc, bon, déjà, il y a un effet assez simple, c'est si on dort mal, le lendemain, on a des problèmes d'attention, et ce que vous dites, ça fait évoquer des problèmes d'attention, donc qui vont se répercuter sur la mémoire à court terme. Vous voyez, on fait quelque chose, et puis on sait plus bien ce qu'on fait, et donc typiquement, l'exemple que vous prenez là, c'est à la limite d'un trouble de mémoire, hein, c'est plus un problème là d'attention qu'un problème de mémoire proprement dit. Et puis le deuxième élément, bien, c'est bien sûr ça va se répercuter sur la mémoire, parce que si vous n'avez pas une attention suffisante lorsque vous réalisez une activité ou une autre, eh bien si l'attention n'est pas suffisante, eh bien la mémoire n'est pas sollicitée suffisamment. Et donc, vous allez mal enregistrer les informations. Donc, il y a en fait deux effets. Il y a un effet sur l'attention, et puis il y a par contre-coup un effet sur la mémoire.
Donc, dans ces cas-là, la question, c'est effectivement de résoudre les problèmes d'insomnie qui vont de même après résoudre les problèmes d'attention et de mémoire.
Ben, on peut l'espérer, mais c'est vrai que si vous mettez en avant là ces problèmes d'insomnie, c'est certainement que on est amené à penser qu'il y a un lien entre l'un et l'autre.
Merci beaucoup Moussa et bon courage à vous. Quelles sont, Francis Eustache, les maladies de la mémoire? Alors évidemment on a tous en tête la maladie d'Alzheimer, mais il n'y a pas que ça.
Oui, il y a beaucoup de maladies de la mémoire. Il y a beaucoup de situations qui vont conduire à des troubles de mémoire. Alors il y a les maladies de la mémoire où le trouble de mémoire est en premier chef, donc comme la maladie d'Alzheimer qui est la plus médiatisée, qui est la plus fréquente. En France, à peu près 850 000 patients. Et une maladie qui va provoquer d'autres troubles cognitifs quand elle va évoluer. Il y a d'autres maladies dégénératives qui sont un peu moins connues que la maladie d'Alzheimer. Et puis, il y a également ce qu'on appelle des syndromes amnésiques, c'est-à-dire des pathologies qui vont toucher spécifiquement la mémoire, avec des étiologies différentes. Ça peut être un traumatisme crânien, une encéphalite, une consommation d'alcool très importante qui va conduire également à ce qu'on appelle un syndrome de Korsakoff. Donc il y a toutes ces maladies de la mémoire que je ne vais pas énumérer parce que ce serait fastidieux. Et puis il faut aussi voir qu'il y a des troubles de mémoire qui sont moins importants que ces grandes maladies de la mémoire, mais il y a beaucoup de situations en fait qui conduisent à des troubles de mémoire. Alors par exemple le fait d'être déprimé. Si on est déprimé, eh bien on va avoir une modification dans le fonctionnement de notre mémoire. Premièrement, on va avoir des difficultés à trouver les bons indices pour récupérer les informations. On va avoir tendance à avoir accès à des informations beaucoup plus générales. Et puis sur le plan des contenus, la dépression va changer également les contenus, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à penser à des idées tristes, à des souvenirs tristes. Et en quelque sorte, cette mémoire qui est négative va alimenter la dépression elle-même. Et puis enfin, on peut citer tout changement, tout grand changement existentiel dans notre vie, et je pense en premier
heureux
lieu...
Heureux ou malheureux les
heureux
deux.
Ou malheureux. Alors surtout malheureux. Hein, heureux, évidemment, on va avoir un changement d'orientation dans nos pensées, mais je pense surtout à malheureux, par exemple, apprendre qu'on est atteint d'une maladie grave. Par exemple, apprendre qu'on est atteint d'un cancer. Et vous voyez, une rupture dans notre vie, à savoir qu'on est très inséré dans la vie professionnelle, sociale, etc. Puis le fait de devenir malade comme ça, eh bien, on change complètement nos repères sont modifiés. Et à ce moment-là, sans même parler des effets directs de la maladie et de ses traitements, mais simplement le fait de changer de statut sur un plan existentiel va faire en sorte que des troubles de mémoire, que des modifications de la mémoire qui peuvent être importants vont survenir.
On se retrouve, si vous voulez bien, dans 3 minutes, hein, toujours pour parler de la mémoire, juste après les informations.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons de la mémoire avec Francis Eustache, qui est neuropsychologue, directeur d'études à l'école pratique des hautes études, directeur de recherche à l'INSERM. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler pour lui poser des questions au 33 1 80 82 75 75. Vous pouvez bien sûr aussi nous laisser des messages sur les réseaux sociaux. Juste avant les informations, vous nous aviez dit qu'il y avait un certain nombre de pathologies qui finalement atteignaient la mémoire, pas forcément de façon directe, et vous avez cité entre autres la dépression, on a parlé des problèmes de sommeil. Est-ce que ça peut être aussi les médicaments, les antidépresseurs et les somnifères qui ont un impact sur la mémoire, ou c'est la maladie elle-même ?
Alors, il y a les effets de la maladie, et effectivement, il y a également des traitements qui, au long cours, peuvent provoquer des troubles de mémoire. Donc les médecins, les psychiatres sont bien conscients de cela. C'est-à-dire qu'il faut trouver le juste milieu pour soigner la dépression, soigner la maladie, et en même temps faire en sorte que ces traitements ne soient pas installés au long cours, parce qu'ils peuvent avoir effectivement des effets délétères sur la mémoire. C'est vrai également d'autres traitements. J'ai parlé tout à l'heure du cancer. Les traitements du cancer sont des traitements très lourds, hein, qui provoquent également des troubles cognitifs.
Et on le sait moins, ça, on en entend moins parler.
On le sait moins, c'est pour ça qu'il est important également de communiquer sur ce sujet-là, parce que les personnes, je pense notamment les femmes qui ont un cancer du sein, c'est une pathologie qui a été beaucoup étudiée maintenant dans ce domaine. Les femmes décrivent un peu comme un brouillard mental, et qui est lié en grande partie au traitement qu'elles subissent, hein, qui permettent souvent de les guérir, parce que c'est un cancer qui est maintenant beaucoup mieux soigné, mais avec tout de même ces effets délétères dont il faut tenir compte dans la prise en charge de ces patientes.
J'aimerais bien qu'on parle des consultations mémoire. C'est quoi exactement? Ça se passe comment? Et surtout d'abord, qui vient? On a toujours plutôt en image des personnes âgées qui s'inquiètent sur la maladie d'Alzheimer. Or, il n'y a pas que ça dans ces consultations mémoire.
Alors, dans les consultations mémoire, c'est principalement, hein, des personnes âgées qui ont des troubles de mémoire, qui hésitent, qui se demandent si elles sont au début d'une maladie dégénérative comme la maladie d'Alzheimer, mais ce sont également des gens plus jeunes, très diversifiés, qui se plaignent de leur mémoire, parce que la mémoire, c'est vrai que c'est un peu un thermomètre de notre vie mentale, et si on se plaint de troubles de mémoire, eh bien c'est logique que l'on aille consulter pour cela. Alors, une consultation mémoire, typiquement, bon, c'est dans un hôpital, c'est dans un service souvent de neurologie, et c'est pluridisciplinaire, c'est-à-dire que il y a à la fois des médecins, souvent neurologues, parfois psychiatres, parfois gériatres, et puis également des neuropsychologues. Donc, ce sont les neuropsychologues qui vont faire cet examen de la mémoire, qui vont répondre vraiment à la question.
C'est quoi, ce sont des tests, en fait, c'est ça?
Alors, le neuropsychologue, il va avoir d'abord toute une discussion avec le patient, avec son entourage, si le patient vient accompagné de son conjoint ou d'une fille, d'un fils. Donc, il va essayer de comprendre la situation. Et à partir de là, effectivement, un des éléments caractéristiques de l'examen neuropsychologique, c'est d'utiliser des tests de mémoire. Donc, à partir des résultats aux tests, il va faire une synthèse avec le médecin, éventuellement avec d'autres personnels qui vont être impliqués dans cette consultation. Et puis, il y a également d'autres examens qui vont être faits, notamment des examens en imagerie cérébrale, qui donnent également des informations importantes, qui permettent de visualiser s'il y a des lésions du cerveau, s'il y a une atrophie du cerveau. Et donc, c'est l'ensemble des informations qui sont recueillies par cette consultation pluridisciplinaire qui va permettre d'avancer ou non un diagnostic.
On a beaucoup d'auditeurs qui nous posent des questions, entre autres sur Facebook, et qui reparlent de la question de l'oubli que vous avez évoqué tout à l'heure. Il y a Yael, entre autres, qui demande, est-ce que l'oubli fait partie finalement des problèmes de troubles à mémoire? Vous nous avez dit tout à l'heure que l'oubli est en fait une très bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout stocker, c'est ça?
Alors l'oubli a priori comme ça, quand on prononce ce mot, on pense plutôt à un ennemi presque de la mémoire, parce que c'est lui qui nous gêne de temps en temps dans la vie quotidienne, quand on cherche un mot, on n'a pas le mot précis, ou quand on a oublié quelque chose, que c'est très flou, ou encore on l'assimile aux maladies de la mémoire, parce qu'on sait qu'il est plus fréquent dans les maladies de la mémoire. Tout cela, c'est vrai. L'oubli, il y a une dimension physiologique, puis il y a une dimension pathologique dans certains cas, qu'il gêne la mémoire. Mais à contrario, l'oubli, c'est le partenaire, c'est l'outil principal du fonctionnement de la mémoire. Parce
qu'on ne peut pas tout stocker, tout simplement,
voilà,
c'est ça ?
Parce que le travail de notre mémoire, c'est de faire une synthèse, c'est de faire un tri. C'est de faire un tri dans un premier temps, puis c'est de faire une synthèse progressive tout au long de notre vie. Et la mémoire, c'est un remaniement, c'est en fonction de nos intérêts, de nos aspirations du moment, de notre statut qui évolue au fil du temps. Et donc, évidemment, cette synthèse, ces remaniements au fil du temps, ils demandent de conserver des informations qui soient cohérentes les unes par rapport aux autres, de construire quelque chose, de construire des connaissances. Ces connaissances, elles sont ponctuées de souvenirs précis, hein, qui permettent de ponctuer, par exemple, des périodes de vie. Donc, la période de vie où j'habitais à Paris, je vais avoir quelques souvenirs emblématiques de cette période de vie où j'habitais à Paris, mais je ne vais pas conserver tous les souvenirs des événements que j'ai vécus quand j'ai habité à Paris. Donc, c'est ça le travail de la mémoire, c'est de construire quelque chose de cohérent en lien avec notre identité, qui elle-même se modifie au fil du temps. On n'est pas le même quand on a 20 ans, quand on a 40 ans, quand on a 60 ans. Et donc la mémoire, elle nous accompagne en conservant des connaissances et des souvenirs qui sont presque, j'ai envie de dire, emblématiques de nous-mêmes, mais en même temps en oubliant une quantité absolument considérable d'informations.
On a Rossi qui nous appelle de Pointe-Noire au Congo. Rossi, bonjour.
Allô, bonjour Claire.
On vous écoute, Rossi.
Ouais, je suis... J'avais arrêté avec mes études et j'ai repris avec mes études. Je trouve que j'ai du mal à bien mémoriser mes cours. Et je me demande qu'est-ce qui se passe.
Et comment vous faites? Vous essayez de répéter beaucoup vos cours pour retenir? Vous faites comment?
Ouais, je suis obligé de répéter beaucoup. Répéter pendant au moins 2 ou 3 jours pour que je puisse mémoriser mes cours.
Ouais.
Donc avant, je pouvais mémoriser les cours dès le cours.
Ouais. Et quand vous dites avant, vous avez quel âge, juste aussi?
Avant, j'étais autour de 25 ans.
Mais aujourd'hui, vous avez quel âge ?
20 à 25. Là, je suis autour de 30 ans.
Vous êtes encore jeune. Francis Eustache, comment faire pour bien... Est-ce qu'il y a des moyens pour bien retenir ? Est-ce que le fait de répéter est un bon moyen d'entretenir sa mémoire ?
Le fait de répéter est de façon générale une bonne façon de maintenir des informations, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire qu'on revient à une question qui a été posée antérieurement. Il faut répéter, c'est une bonne chose, mais il faut surtout répéter quelque chose qu'on a parfaitement compris, dans notre jargon on dit qu'on a traité en profondeur. Si vous répétez une information que vous avez traitée de façon superficielle, c'est-à-dire sans parfaitement la comprendre, vous voyez, dans son essence même, quand il s'agit d'un texte un petit peu difficile, d'une nouvelle leçon, etc., eh bien, cette répétition sera beaucoup moins efficace. Donc, ça, c'est un des éléments clés. Et puis, bon, il y a les aspects hygiène de vie qui sont très importants également. Et puis, toujours essayer de mettre en relation ces informations nouvelles avec des informations que l'on a déjà acquises. Et c'est vraiment ça, la clé du succès quand on fait des études.
C'est ça, vraiment chercher à comprendre. Est-ce qu'il y a des moyens quand même pour développer sa mémoire ? Merci beaucoup, hein, Rossi, de nous avoir appelé. Est-ce qu'il y a des moyens qui font qu'on va avoir une meilleure mémoire ? J'ai bien compris qu'il fallait comprendre. Mais au-delà de ça...
Alors, disons que la mémoire, il y a des fonctions qui travaillent avec la mémoire. Il y a une organisation, on pourrait dire, qui accompagne la mémoire, ce qu'on appelle dans notre sémantique de neuropsychologue les fonctions exécutives, qui vont travailler avec la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a toute une organisation de la mémoire lors de l'encodage, quand on enregistre les informations, et lors de la récupération. Et lors de la récupération, en fait, le bon moyen, c'est de retrouver le bon indice. Le bon indice va nous conduire aux informations. Et ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on encode une information, eh bien, il faut également essayer de penser aux situations où on va récupérer cette information. Et c'est le lien entre la situation d'encodage et la situation de récupération, avoir les bons indices aux deux moments, qui vont faire en sorte qu'on va retrouver plus facilement ces informations.
On a beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé, je pense entre autres à Abdoulaye et à Noakchott, qui nous demandent est-ce qu'il y a des médicaments finalement pour remédier à des problèmes de mémoire où on n'a pas encore trouvé le remède miracle.
On n'a pas trouvé le remède miracle. Il n'y a pas le médicament de la mémoire. Bon, il y a des médicaments qui vont favoriser plus l'attention, mais disons sans effet vraiment évident. Et puis pour les maladies de la mémoire, eh bien il y a malheureusement des médicaments qui existent, qui vont avoir un effet symptomatique, c'est-à-dire qui vont permettre d'atténuer les symptômes de certaines maladies, comme la maladie d'Alzheimer, mais ce ne sont pas des effets qui modifient véritablement le cours de la maladie. Donc ce sont des médicaments qui ont été mis sur le marché dans les années 90, donc qui ont changé la vision de cette maladie, parce qu'on a vu à ce moment-là qu'il s'agissait vraiment d'une maladie qui pouvait être traitée comme une autre maladie, mais il s'agit d'un traitement symptomatique.
Est-ce qu'il y a des recherches justement pour essayer de trouver entre guillemets un médicament de la mémoire, ou je dirais c'est pas comme ça qu'on recherche?
Il y a beaucoup de travaux actuellement sur les traitements des grandes maladies de la mémoire, et notamment de la maladie d'Alzheimer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à un décalage entre, d'une part, les progrès des connaissances sur les mécanismes de ces maladies, ce qu'on appelle la physiopathologie de ces maladies. On connaît les grandes pistes qui conduisent au développement des lésions de la maladie d'Alzheimer. Par contre, les progrès thérapeutiques, au sens progrès dans le domaine des thérapeutiques médicamenteuses, eh bien ces progrès sont beaucoup plus lents, parce que ce sont des techniques qui sont extrêmement difficiles, mettre au point ce type de médicaments. Et puis il y a un autre aspect qui est important dans ces maladies, important à connaître, c'est que ce sont des maladies qui se développent en fait relativement tôt dans le cerveau des personnes et qui vont s'exprimer tard. Donc, pour donner un ordre de grandeur, eh bien, la maladie d'Alzheimer, elle est dans le cerveau des personnes qui vont la développer vers l'âge de 40 ans, alors qu'elle va se développer avec ses symptômes, c'est-à-dire que les aspects cliniques vont être apparents beaucoup plus tard, vers l'âge de 70 ou 80 ans. Et quand la maladie, en fait, se déclare, eh bien, il est très difficile d'y remédier, parce que les lésions sont déjà omniprésentes. Donc, il y a toute une stratégie de recherche actuellement qui vise à faire un diagnostic précoce, voire très précoce, de la maladie. Mais on est dans une situation difficile, dans le sens que même si on est capable de faire ce diagnostic précoce avec ce qu'on appelle les biomarqueurs, notamment l'imagerie cérébrale et d'autres biomarqueurs, eh bien, on n'a pas les moyens, pour autant, d'enrayer le processus pathologique lui-même.
C'est-à-dire d'enrayer la progression de la maladie. On a beaucoup de questions d'auditeurs, je pense entre autres à Aladj ou à Abraham, qui demandent quels sont les aliments nécessaires pour une bonne mémoire. Est-ce qu'il y a des vitamines? Il y a Césaire qui nous parle d'haricots verts, par exemple. Est-ce qu'il y a des aliments meilleurs pour la mémoire?
On a beaucoup parlé du régime méditerranéen, mais je pense qu'il faut surtout considérer...
Moi, on me parlait de poisson quand j'étais petite.
Oui, le poisson, les oméga 3, etc. Il y a beaucoup de choses, mais les effets sont en fait infimes. Les effets sont infimes, donc je pense qu'il faut plutôt parler d'un régime équilibré, éviter les excès de graisse, de sucre, etc. En fait, tous les facteurs de risque cardiovasculaire, parce que on parle beaucoup des maladies dégénératives, c'est important, mais ces maladies dégénératives, elles interagissent également avec des problèmes cardiovasculaires, et donc tout le secteur cardiovasculaire, là on peut avoir une prévention. Donc c'est l'hygiène de vie, c'est la nutrition, c'est aussi le sport, hein, c'est l'activité physique qui est très importante. Donc ça, il faut vraiment en parler.
L'activité physique est bonne pour la mémoire. Bouger son corps permet de mieux retenir. Et pourquoi? On l'explique comment?
Alors on l'explique pour ces raisons cardiovasculaires. qui sont évités, donc les facteurs de risque cardiovasculaire. Puis il y a sans doute des effets plus directs sur la mémoire, sur les régions du cerveau qui sont importantes dans la mémoire, comme l'hippocampe, dont on n'a pas encore parlé, qui est une région du cerveau qui se trouve à la face interne des lobes temporaux. Et cette région du cerveau, elle est particulière en sens qu'elle, c'est une région du cerveau où il y a beaucoup de neurogénèse. De neurogénèse, c'est-à-dire de fabrication de nouveaux neurones. Et pour que ces neurones restent fonctionnels, viables et fonctionnels, eh bien, il faut qu'ils soient dans un bain physiologique favorable et notamment une oxygénation qui soit suffisamment importante. Donc, l'activité physique aérobie, on a montré des liens direct entre cette activité et l'activité de l'hippocampe. Donc c'est une des pistes pour expliquer cet effet bénéfique du sport en général et de l'activité physique, on pourrait dire, c'est pas forcément un sport authentifié comme tel, sur le fonctionnement de la mémoire. Puis il y a un autre aspect qu'on n'a pas évoqué encore, qui est très important, ce sont les relations sociales. C'est mémoire et relations sociales, c'est quelque chose de très lié, ce sont les épidémiologistes qui ont montré cela dans un premier temps, en étudiant des grandes cohortes de personnes sur des temps très longs, parfois plusieurs décennies, et donc en recueillant des indices sur le mode de vie de ces personnes. Et ces épidémiologistes ont montré que les personnes qui ont des relations sociales nombreuses, donc avec différentes personnes qui sont très impliquées dans la vie sociale, eh bien ces personnes, elles vont premièrement moins développer que d'autres des petits troubles de mémoire liés à l'âge, qui sont des petits troubles classiques, hein, mais qui sont quand même gênants. Et puis deuxièmement, ça c'est quand même une découverte qui est importante, eh bien ces personnes, de façon générale, ce sont sur des cohortes avec des tests statistiques sur des grands nombres, eh bien ces personnes vont développer plus tard les maladies dégénératives. Donc on va avoir un effet retard sur la survenue des symptômes des maladies dégénératives. Ça ne veut pas dire que ça supprime la maladie dégénérative, mais ça a un effet sur le fait que les symptômes apparaissent plus tard, ce qui est bien sûr très important.
Et justement, est-ce qu'il y a aussi dans le même ordre d'idée des exercices qui permettent d'entretenir sa mémoire? Je pense aux mots croisés, mais il n'y a pas que ça. On voit très souvent fleurir des petits livres où on dit exercez votre mémoire, entretenez votre mémoire. Ça marche? Ou vous êtes dubitatif?
Je pense qu'il faut être toujours un petit peu critique, mais je pense que faire des exercices, c'est une bonne chose, à condition que ça reste raisonnable. Je pense que c'est pas le but de la vie de faire des exercices pour entretenir sa mémoire. Bon, si c'est fait dans un cadre de jeu avec quelqu'un d'autre, de jeu avec des enfants, etc., ça c'est beaucoup mieux. Mais je pense que l'implication sociale est beaucoup plus importante en termes d'effet sur la mémoire que de manipuler des petits jeux, mais qui en soi ne sont évidemment pas toxiques. Mais il y a des tas d'autres activités qui vont avoir un effet plus direct. Par exemple, le fait de voyager, vous voyez. Le fait de voyager, on apprend des tas de choses nouvelles, mais on est également confronté à des situations nouvelles qui sont vraiment en temps réel. Et en fait, le cerveau va être beaucoup plus demandeur de ce genre d'activité que de petits tests qui ont un effet, en fait, sur le test lui-même, mais qui vont être peu transposables à la vraie vie.
J'ai compris qu'il n'y avait pas d'aliments miracles. Est-ce qu'il y a au contraire, pour la mémoire, est-ce qu'il y a au contraire des substances qui sont néfastes pour la mémoire?
Beaucoup de substances, oui, beaucoup de toxiques, l'alcool, dans nos sociétés. Et donc l'alcool à user avec modération, dans un contexte social, certes, mais l'abus d'alcool provoque même des maladies de la mémoire. J'ai évoqué tout à l'heure le syndrome de Korsakoff, mais sans atteindre la situation extrême du syndrome de Korsakoff, qui est un syndrome amnésique où on perd complètement la mémoire, déjà une consommation importante d'alcool entraîne des troubles de mémoire et entraîne des modifications dans la structure et dans le fonctionnement du cerveau.
Et j'imagine certaines drogues aussi.
Certaines drogues également. Et il faut penser également aux effets sur les jeunes. qui sont certainement dramatiques. C'est des choses qu'on ne connaît pas encore très bien parce qu'on n'a pas suffisamment de recul. Mais les jeunes adolescents qui boivent des grandes quantités d'alcool, c'est une véritable préoccupation de santé publique.
Et de même sur la consommation de cannabis, hein,
bien sûr,
on dit que ça entraîne des impacts sur le cerveau. Juste une dernière question très rapide, parce qu'après on va parler des médicaments falsifiés. On a eu beaucoup de questions des auditeurs sur le lien entre rêve et mémoire. Pourquoi certains se rappellent de leurs rêves et pas? Est-ce que c'est lié à la mémoire ou pas forcément, justement?
Oui, c'est lié à la mémoire, mais ce sont des mécanismes qu'on ne comprend pas encore très bien. Mécanisme le rêve, c'est un moment du sommeil, en fait, où les lobes frontaux qui contrôlent notre activité dans la vie diurne, hein, dans la vie quotidienne diurne, eh bien, en fait, laissent un petit peu plus passer la permissivité et permettent le développement des rêves qui s'appuient à la fois sur des choses que l'on a vécues dans la journée, mais également qui laissent aller ces connaissances de la journée vers des chemins beaucoup plus inattendus.
Merci beaucoup, hein, Francis Eustache, d'être venu nous parler de la mémoire. Je rappelle que vous êtes neuropsychologue, vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études, et on va terminer en parlant des médicaments falsifiés.
Santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose donc de parler de la lutte contre les médicaments falsifiés avec Jean-Louis Machuron, qui est président de l'association Pharmacie et Aide Humanitaire, créateur de l'ONG Pharmaciens Sans Frontières. Jean-Louis Machuron, bonjour.
Bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce qu'on met sous ce terme de médicaments falsifiés? On parle de quoi?
Oui, c'est vrai que c'est une bonne question, puisque souvent on parle de médicaments illicites, de médicaments de la rue, etc.
De faux médicaments.
Voilà, de faux médicaments. Et on mélange un peu tout, on mélange la contrefaçon, de la malfaçon, etc. Pour nous, et ce à quoi on s'attache et qu'on veut, pour lequel on veut lutter, en fait c'est plus une malfaçon du médicament. Pour nous, le médicament falsifié, ce sont des médicaments qui ont quelquefois pas du tout de principe actif, ou alors qui sont sous-dosés, ou qui comportent des substances toxiques qui peuvent menacer la santé publique. Donc c'est vraiment le médicament falsifié, selon l'OMS, ça doit concerner dans le monde 10% de la totalité des médicaments. Et ces médicaments falsifiés, donc de malfaçon, dans les pays développés, concernent seulement 1% des médicaments. Donc c'est un véritable fléau dans les pays en développement, et notamment en Afrique. Donc,
est-ce que vous avez justement des chiffres?
C'est plus une malfaçon.
Est-ce que vous avez des chiffres sur l'impact justement de ces médicaments falsifiés sur la santé?
Des chiffres, malheureusement, et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on veut s'attaquer en face de ce fléau, ils sont peu connus. Les seuls chiffres qui sont à peu près réalistes, c'est celui que je citais tout à l'heure, c'est à peu près 10% de la totalité des médicaments dans le monde.
En quoi consiste le projet TrackMed, qui est lancé dans 4 pays africains, hein, Bénin, Burkina Faso, Mali et Guinée, justement pour lutter contre ces médicaments falsifiés?
Alors, si vous voulez, ces médicaments, je parlais tout à l'heure des pays développés, des pays en développement. Dans nos pays développés, c'est vrai qu'il y a des organismes de régulation au niveau des ministères de la Santé qui peuvent très vite alerter les patients. Parce qu'il arrive qu'une industrie fasse un dosage qui est un petit peu moins que le principe actif qu'il devrait respecter. Mais tout de suite, il y a une alerte. Dans les pays en développement, il n'y a pas de traçabilité du médicament, et les autorités de régulation du médicament sont très faibles. Donc ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment renforcer les autorités de régulation du médicament, c'est-à-dire au sein des ministères de la Santé, les directions de la pharmacie et du médicament, c'est-à-dire former les pharmaciens, c'est aussi travailler, donc mettre en place un logiciel de traçabilité pharmaceutique avec lesquels les pharmaciens pourront, et la direction de la santé pourront échanger avec la police, les douanes, la justice, pour qu'il y ait un véritable outil de traçabilité pharmaceutique qui soit mis en place. Alors, et parallèlement à ça, c'est vrai qu'il faut former aussi des inspecteurs pharmaciens qui puissent faire des contrôles systématiques et mettre en place une législation, une vraie législation pharmaceutique. Donc, notre travail, c'est vraiment aider nos confrères de ces quatre pays au niveau des autorités de régulation pharmaceutique.
Et justement, quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour ça? Est-ce que, justement, il faut une technicité, des laboratoires un peu compliqués qui sont difficiles à mettre en place?
Oui, il y a plein de difficultés, mais c'est vrai que pour monter un laboratoire de contrôle qualité du médicament, ça demande des sommes quand même assez colossales pour monter ces laboratoires pharmaceutiques de contrôle qualité du médicament, et il faut les faire fonctionner. Et en fait, c'est les coûts de fonctionnement qui coûtent cher et ça rapporte rien. Donc, il faut vraiment aider ces différents pays à avoir des vrais laboratoires de contrôle qualité du médicament, parce que si vous êtes nommé directeur de la pharmacie à médicaments et chargé d'importation du médicament, il faut à coup sûr que vous puissiez importer le bon médicament au meilleur prix possible.
Il nous reste juste quelques secondes, mais est-ce qu'il y a un message que vous avez envie de faire passer à la population de ces pays sur lesquels vous allez intervenir, Bénin, Burkina, Mali et Guinée?
Oui, c'est vraiment vraiment faire attention à ce qu'on achète comme médicaments, et c'est vrai que éviter d'acheter des médicaments à des vendeurs de la rue.
On achète son médicament en pharmacie, hein, c'est le message qu'on peut faire passer.
Voilà, tout à fait.
Merci beaucoup, hein, Jean-Louis Machuron. Je rappelle que vous êtes président de l'association Pharmacie et Aide Humanitaire. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.